Projet numéro 17, le roi est mort. Situation 6 août 1993. Réalisation Gunnar pour Radio Panique. Me voici, je me trouve à la place royale, direction Palais Royal, place des Palais. Et c'est ici qu'il faut attendre pour voir le roi. Et je vois qu'il y a 5 heures d'attente. Ça veut dire qu'il faut attendre 5 heures avant d'entrer le Palais Royal. Je n'ai pas l'intention d'attendre 5 heures, mais je vais quand même regarder un peu autour, ce qui se passe autour. Et oui, c'est ici, au Palais Royal, qu'il y a 100 000, peut-être 200 000 gens qui attendent leur tour pour voir la dernière fois. Le roi, oui, le roi, pendant peut-être 2-3 secondes, ils attendent 5 heures. Bon, regardons ce qui se passe peut-être dans le parc juste en face, parce qu'ici il y a trop de monde. Et oui, c'est 150 francs pour un journal et une photo qui est presque nulle, quoi, parce qu'elle est, elle n'est pas nette, disons. 150 francs. Et ça se vend, c'est dégueulasse, quoi.
Quelqu'un souhaite-t-il un drapeau? 500. Ouais. Quelqu'un souhaite-t-il un drapeau?
Et oui, il y a des petits malins qui vendent des drapeaux pour 500.
Quelqu'un souhaite-t-il un drapeau?
Jesus.
Quelqu'un souhaite-t-il un drapeau? Quelqu'un
sortit
un drapeau? Madame?
Quelqu'un sortit un drapeau? Comme un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit.
Ragoût de panique.
Chapitre 23. La relation entre la SABAM et Radio Panique n'est pas une relation d'amour.
Toutes les radios sont tenues à respecter les droits d'auteur des œuvres, musicales ou non, qu'elles diffusent. En Belgique, la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, la SABAM, jouit d'une position de quasi-monopole en la matière. En effet, elle représente les droits de la plupart des auteurs belges et les droits des autres sociétés d'auteurs belges ou étrangères. La SABAM livre les autorisations de diffuser les œuvres et perçoit les rémunérations y afférentes, dont elle fixe unilatéralement les montants. Son chiffre d'affaires tourne actuellement autour de 110 millions d'euros, Ses frais de gestion s'élèvent à environ 15% du chiffre d'affaires, soit 16 millions d'euros, qui, donc, ne sont pas reversés aux auteurs. Le montant total des droits payés par tous les médias, TV, radio et câble, est de l'ordre de 32 millions d'euros. Depuis plusieurs années, la gestion de la SABAM est mise en cause pour son opacité. En 1985, Philippe Moreau, ministre de l'audiovisuel, dégage l'équivalent de 30 000 euros, soit 1 200 000 francs, pour aider toutes les radios locales à payer les droits d'auteur réclamés par la SABAM. La SABAM signe alors, avec le groupement des radios commerciales, un accord au terme duquel celles-ci doivent payer annuellement l'équivalent de 6% de leurs recettes publicitaires, en tenant compte d'un plancher imposé. Les critères sont le nombre d'heures diffusées et l'audience potentielle, c'est-à-dire le nombre total d'habitants dans la zone de référence, et non l'audience réelle. Dès 1987, la SABAM entend imposer cet accord aux radios associatives. Celles-ci sont dès lors supposées payer un minimum annuel de 2000 euros si elles se trouvent dans une agglomération.
La SABAM nous impose une tarification qui est en réalité adaptée aux radios commerciales, ce que nous ne sommes pas.
Et vous savez quoi ? Cette tarification, elle correspond au quart environ de nos rentrées annuelles. Ce qui est insupportable !
Radio Panique refuse de signer ce genre de contrat qu'elle estime injuste et propose à la SABAM une formule alternative, à savoir payer une somme correspondant à 4% de son budget annuel, soit environ 370 euros. Et dans la pratique, Panique auto-réduit le montant des droits d'auteur réclamés. Panique légitime aussi cette pratique par le fait que sa programmation ne compte que 50% environ d'œuvres enregistrées à la SABAM et que les sommes versées rentrent dans un listing commun où ne figurent pas les artistes dont elle diffuse les œuvres.
En 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait savoir à Panique que sa reconnaissance ne sera pas renouvelée si elle ne s'acquitte pas de ses paiements à la SABAM, tels que déterminés par celle-ci. En effet, le décret de 1991 en a fait une des conditions pour obtenir l'autorisation d'émettre.
Il s'agit là d'une collusion entre le pouvoir politique et un domaine de la société civile. Et nous demandons le retrait de cet article du décret.
Et en attendant, nous avons été amenés à remplacer notre programme non-stop de la nuit par des ambiances sonores entrecoupées d'annonces. Du négatif, faisons du positif.
Réalisé avec nous le programme non musical de Radio Panique.
Enregistré à tout propos.
Bruit, voix, sons divers, ambiance, rythme.
Et faites-nous parvenir vos enregistrements, nettoyés ou non, montés ou non.
Peut-être serez-vous ainsi artisan de Radio Panique Minimal.
Bonjour Marc Light, vous êtes un auditeur de Radio Panique, déjà depuis un certain temps je crois.
Oui, depuis j'ai 30 ans et probablement depuis l'âge de 15 ans très sporadiquement et un peu plus régulièrement depuis l'âge de 20 ans. Bah, en général, ce qui se passe, bon, moi j'ai pas la télé et comme je vis seul, donc il y a souvent la radio. Et généralement, c'est vrai que c'est le troisième programme, quoi, parce que c'est une musique neutre en fond. Mais quand j'ai envie de. Quand je suis occupé à faire des choses qui ne demandent pas de concentration ou quoi, c'est vrai que je mets assez souvent Panique en bruit de fond, quoi. Enfin, en bruit de fond ou comme compagnie, quoi. Ouais.
Et pourquoi vous aimez bien Panique ?
La première chose, c'est parce qu'il n'y a pas de pub. C'est vrai que je ne supporte pas la pub. C'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ouais. Chercher des radios sans pub. Et puis parce que oui, souvent il y a des musiques intéressantes ou des émissions que des sujets qui m'ennuient pas ou qui me font rire. Quand j'ai vraiment découvert Radio Panique, justement, c'est quand je venais de partir chez mes parents. J'étais dans une petite chambre ici à Scarbeck et j'étudiais la nuit, j'écoutais la radio parfois aussi. Et alors c'était à une époque où il y avait beaucoup de... Je ne sais pas s'il y avait des problèmes ou quoi, mais il y avait des revendications de Radio Panique qui étaient je ne sais pas s'ils étaient au bord de la faillite ou quoi, mais il y avait beaucoup de revendications pour une radio sans publicité, c'est ça. Et il y avait des émissions bruitistes qui passaient pendant la nuit c'était pendant toute la nuit, on entendait un pique-nique au bord de l'eau entrecoupé de revendications pour les radios libres et non commerciales. Et moi, j'avais découvert ça, je trouvais ça assez rigolo, je voyais ça un peu comme une bande de gens bizarres, et je parlais à tous mes copains de cette radio de... Moi, je disais cette radio de fou, mais je trouvais ça très sympa, et j'écoutais ça pour avoir un peu de compagnie dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert Radio Panique.
Allez, bon appétit, hein. Mais moi, je veux bien finir avec toi.
C'était le frétillement des saucisses à l'ail sur le barbecue quelque part en Ardennes.
Contrainte et forcée, Panique entame dès lors de très orageuses négociations avec la SABAM et obtient finalement de payer annuellement 1000 euros indexables. Mais elle doit aussi rembourser ses dettes. Radio Panique ne met pas en cause le principe des droits d'auteur, mais son application. La SABAM ne devrait-elle pas aider une radio qui ouvre son antenne à un nombre important de jeunes artistes et musiciens, ainsi qu'à nombre de musiques traditionnelles et folkloriques ?
La SABAM, via sa caisse d'entraide et de solidarité, et la communauté française, via le service des arts de la scène, prétendent aider les jeunes auteurs et compositeurs belges francophones. Mais ces structures ne travaillent pratiquement pas avec les radios associatives.
De plus, Radio Panique n'a toujours pas l'assurance que les sommes versées à la SABAM sont bien redistribuées aux auteurs consignés dans une playlist mensuelle et non à ces auteurs figurant dans le hit-parade de l'industrie du disque, absent de sa programmation.
La manière de fonctionner de la SABAM est également mise en cause par une série d'artistes contemporains pour lesquels l'appropriation d'emprunts fait partie du processus de création et qui ne voient pas pourquoi cette liberté doit être limitée. La surmultiplication des types de protection juridique des œuvres, alliée à la domination oligopolistique des marchés, peuvent devenir une entrave au désir de création et à l'accès des œuvres au plus large public possible.
En fin de compte, je suis un des rares animateurs que j'ai croisés dans ma vie à ne jamais avoir ouvert le micro et lâché comme première phrase « Ici, c'est Eric Georg Herrebaut et je vais vous présenter... » Non, je me suis toujours caché derrière des noms, des pseudonymes, des concepts, des idées. Je me suis toujours empressé de préciser, et je le fais encore aujourd'hui en début de toute émission, que ce soit Bizarre Checker sur Radio Panique ou Les Nouvelles Hybrides sur Radio Campus, m'empresser de signaler que je ne suis que la partie d'un tout et qu'il se passe ailleurs d'autres choses qui sont dans le même esprit, donc sur la libre circulation des idées, le refus de tout ce qui est protection, tout ce qui empêcherait de circuler une œuvre de manière tout à fait libre, si la personne qui l'a produite a décidé qu'elle doit circuler d'une manière tout à fait libre. Je vais raconter une toute petite anecdote qui est un truc... Voilà, c'est vraiment l'exemple même de la chose que je trouve inacceptable. C'est ce qui s'est passé entre Björk, Scanner et la maison de disques. En une phrase, Björk avait envie de sampler un son qui se trouvait sur un disque de Scanner, donc Robin Rimbaud. Robin Rimbaud a donné son accord, et puis après, la maison de disques a fait un procès à Björk en disant « Non, vous ne pouvez pas sampler un truc que nous avons sorti ». Et dans la mesure où elle avait l'accord de la personne qui a créé cette musique, je trouvais absolument scandaleux que qui que ce soit ça s'abroge le droit de dire qu'on n'a pas le droit, non pas de l'utiliser, mais d'en prendre une parcelle en tant que nouvel élément d'une nouvelle œuvre à venir.
Ce qui est tout à fait contraire à la manière dont on se construit.
C'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. À mon avis, les esprits sont en retard. Et aujourd'hui encore, je signale par exemple l'émergence du phénomène des labels de CDR ou des micro-labels sur cassette, sur mini-disque, sur DAT. Je commence à en trouver des traces partout. Et ce sont des labels vraiment indépendants, dans la mesure où l'expression label indépendant signifie quelque chose, mais ce sont vraiment des gens qui, dans leur chambre, font leur musique, puis ils la gravent sur un CDR et puis ils la vendent, voire la vendre, mais ils peuvent aussi l'offrir, etc. Et ça me semble une démarche beaucoup plus vraie par rapport à la recherche sonore. L'idée, c'est quand même d'offrir quelque chose à un public, quel qu'il soit, et de dire, voilà, cela vous est offert, et vous en faites exactement ce que vous voulez, vous le recevez comme vous le voulez, et je n'ai rien à dire sur ce que vous en faisiez, sur ce que vous en faites, sur l'appréciation ou l'utilisation que vous devez en faire. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Une fois que c'est fait, c'est libre de consommation, d'utilisation, de rejet.
Mais j'attends le 61. Mais j'attends le 61. Mais j'attends le 61. Mais j'attends le 61. Et je veux 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 le 61. Maintenant et tout de suite, un 61, please. Please, un 61. Très vite, un 61. Vite, 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 vite. Et je veux un 61. Mais je veux un 61. Et j'attends le 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 61. Et je veux un 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 61.
Et je veux un 61. Et je veux un 61.
La loi belge de 1984, reprenant les directives de la Convention de Rome de 1961, ne perçoit plus les organismes de radiodiffusion comme de simples consommateurs de droits d'auteur. Leurs prestations sont, en principe, comme celles d'autres types de producteurs, sous la protection du droit voisin. Pourtant, dans les faits, les radios ne bénéficient d'aucune rémunération. Par exemple, un patron de bistrot, un taximène ou un dentiste qui fait écouter la radio à ses clients doit payer un montant annuel qui sera redistribué aux sociétés d'auteurs, d'interprètes et de producteurs, mais non à la radio qui est écoutée. Autre exemple, les radiodiffuseurs n'ont pas droit à une indemnité sur les copies privées de leurs émissions. Beaucoup estiment qu'il devrait en être autrement.
Bon, c'est pas terrible, le 358, direction Louvain. C'est pas terrible, le 358, direction Louvain. Mais je déteste le 358, mais je déteste le 358, 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 je déteste le 358. 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 Je déteste le 358.
Et que personne ne l'oublie.
On peut, je ne sais pas, faire des prêches islamiques 24 heures sur 24 aussi, par exemple. Là, il n'y aura aucun problème de droit avec la SABAM.